C'est la politique des petits pas. On commence à entrouvrir une porte, on met le nez à la fenêtre, et bientôt, peut-être, on sera tous là. Et ce matin, en me levant, il m'est revenu quelques paroles que j'avais lues il y a déjà longtemps. Et alors j'ai retrouvé le texte. Et c'était « Je lance ma joie vers le ciel, comme une volée d'oiseaux. Voici un jour encore qui par ta grâce brille, ô Seigneur. Et tous les jours, c'est l'ascension, c'est Noël, c'est Pentecôte. Et ce jour d'aujourd'hui brille et étincelle de bonheur. Et j'ai à vous transmettre les salutations fraternelles des paroissiens de l'Église protestante unie. Et aujourd'hui aussi, ils installent le nouveau conseil presbytéral et ça n'avait pas pu être fait en raison du confinement. Nous allons prier. Seigneur, quand nous risquons une parole, que nous puisions à ta source. Quand nous risquons une parole, qu'elle nous relie à l'unité de ceux qui te prient. Quand nous risquons une parole, qu'elle s'élève en louange, comme un souffle d'espérance. Quand nous risquons une parole, qu'elle soit parole de vie. Amen. Dans l'Ancien Testament, un petit psaume, tout court, le psaume 117, et le psalmiste invite tous les peuples à louer le Seigneur. Nation, louez toute l'Éternel. Peuple, célébrez-le tous, car sa bonté est grande et la fidélité de l'Éternel demeure à perpétuité. Louez l'Éternel. Et toujours dans l'Ancien Testament, un petit proverbe, au chapitre 27, le numéro 18, celui qui veille sur un figuier en mange le fruit, et celui qui garde son maître est honoré. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 13, les versets 33 à 37. Et ce texte fait partie du dernier grand discours de Jésus sur la fin des temps. Et en quelque sorte, il veut, avant de monter sur Jérusalem et d'être crucifié, donner les derniers conseils importants à ses disciples et à nous aujourd'hui. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche, et commande au gardien de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de maison, le soir ou au milieu de la nuit, au chant du coq ou au matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Je me suis centrée essentiellement sur les deux verbes louer et veiller. Nous sommes le 6 décembre et le second dimanche de l'Avent. Ce temps du confinement a donné aux jours et aux heures une dimension et un ressenti différent à chacun d'entre nous. C'est tellement vrai qu'en préparant cette méditation, j'étais persuadée qu'on était le premier dimanche de l'Avent. Mais je m'en suis aperçue hier. Alors j'ai changé. Et les heures, parfois certaines, s'étirent en longueur comme un élastique et d'autres, au contraire, se contractent. Toute date est un rappel. Et nous, aujourd'hui, comment vivons-nous ce rappel ? Comment vivons-nous ce temps de l'Avent dans ces circonstances si particulières et si imprévisibles ? Et toute date est aussi un appel. Souvenirs heureux ou malheureux, mais qui font date dans notre histoire, parfois enfouis tellement profondément que nous les avons oubliés ou voulons les oublier, enfin presque. Et Dieu dit à l'homme, qui est un terme générique, hein, mesdames, Dieu dit depuis l'histoire humaine, dans la Genèse, il nous dit « Où es-tu ?» Et le Seigneur parlera toujours aux hommes, même après les avoir chassés du paradis, les avoir en quelque sorte exclus de son intime présence. Il dira par exemple à Caïn, et nous pouvons toujours un jour être des Caïn ou des Abel, « Où est ton frère ? Et qu'as-tu fait ?» Les hommes font l'expérience du manque. Et nous ? Que nous manque-t-il aujourd'hui ? Ce que nous appelons souvent recherche, et peut-être ce travail personnel, ce questionnement en nous, qui pour moi n'est pas autre chose qu'une réponse parfois inconsciente à cet appel permanent et très discret de Dieu en nous. Parcours individuel de l'âme humaine qui cherche à se relier à sa source, parcours collectif de l'Église qui est l'ensemble des fidèles. Le Seigneur nous appelle à vivre son évangile dans la durée et non dans l'instant, non pas seul, mais soutenu aussi, stimulé par la présence de tant d'autres, anciens et nouveaux, pour vivre ensemble l'attente joyeuse et certaine des promesses de Pâques et de Pentecôte. Nous sommes toujours libres de ne pas y répondre. Nous l'étouffons parfois par paresse, par négligence, et sans oublier l'action vigilante de l'adversaire, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et dans ce cas, cet appel restera peut-être en sommeil, mis de côté sous les épines du chemin ou les pierres. Mais c'est une petite semence qui est toujours fichée dans notre âme, et que c'est cette part inaliénable du Seigneur en nous. Petite semence jamais lasse de guetter un soupir, un regret, une question, où germera peut-être un jour une réponse de l'être humain à son Sauveur. Toutefois, l'attente, l'éveil sont parfois dures, éprouvantes, exigeantes, usantes, sans fin. Et de tout temps, les croyants ont scruté les Écritures. Autrefois, le soir, la lecture commune de la Bible se faisait pendant la veillée. Et de nos jours, le partage biblique crée ce lien. La veille est action, espérance, patience, témoignage. Jésus a dit à ses disciples et à nous aujourd'hui, veillez. Prenez garde à vous. Les disciples et les sympathisants devaient être fort inquiets et catastrophés en entendant ces paroles. Et il ne faut jamais dissocier les textes du contexte socio-géopolitique de l'époque. La Palestine était sous domination romaine. Et celle-ci réprime violemment toutes les tentatives de libération des zélotes et autres résistants. Et de plus, certains docteurs de la loi et les scribes cherchent à se débarrasser physiquement de Jésus. Et c'est une époque de violence où la loi du plus fort s'impose. Et le questionnement des disciples aurait été le nôtre. Quand ? Où ? L'ignorance génère et entretient l'inquiétude, et l'être humain, pour y échapper, cherche à tout maîtriser. Les progrès des sciences et des techniques les plus extraordinaires ne peuvent tout expliquer, tout résoudre, et sont parfois utilisés à mauvais escient ou détournés, ou pour réduire les hommes en esclavage ou les détruire. C'est que le temps de Dieu n'est pas le temps humain. Il connaît notre faiblesse, notre versatilité. Et c'est pourquoi, par son esprit, Dieu nous appelle et nous parle. Il nous tient en éveil, il nous réveille et nous aide à gérer sur le long terme cette attente. Il faut d'ailleurs noter que vers l'année 66 après Jésus-Christ, lorsque les armées romaines de Titus ont fait mouvement en Palestine à la suite d'une énième révolte des Juifs, les Juifs chrétiens ont pris à la lettre les avertissements de Jésus et ils se sont enfuis de Jérusalem avant l'encerclement et ils ont eu la vie sauve. Et par contre, en 1947 et 1948, les Juifs qui sont revenus en Palestine, nombre de personnes ont pensé que la fin des temps était proche. Et pourtant, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Alors, que savons-nous de Dieu ? Dieu est Dieu pour toujours. Il est imprévisible, il est fidèle, il est juste, il est amour. Et l'homme ? L'homme est mortel, fragile, plus ou moins fidèle, égoïste. Bon, je continue pas, mais enfin. Et l'incompréhension humaine est telle que Dieu a voulu se faire mieux connaître à cette humanité qu'il avait créée et qui est si rebelle. Il a choisi de se révéler en Jésus-Christ et s'est fait notre prochain afin d'amener à lui le plus grand nombre d'hommes. Et Dieu a choisi de se révéler dans ce qu'il y a de plus faible, de plus dépendant. Un bébé dans un milieu modeste, dans un petit village, donc insignifiant et sans poids pour les puissants de ce temps, occupants ou occupés. Quelle confiance en nous ! Quelle confiance de l'amour absolu de Dieu pour nous ! Et Jésus a vécu, comme tous les enfants de son âge, sans signe distinctif jusqu'à 12 ans, où on le retrouve dans le temple de Jérusalem, discutant avec les docteurs de la loi. Adulte, durant son ministère terrestre, il a choisi des disciples, des hommes et des femmes quelconques, simples. Moi, ça me rassure, hein. Il les a enseignés et les a chargés de transmettre tout ce qu'ils avaient vu, entendu, vécu, afin que cette bonne nouvelle de l'Évangile soit connue de tous et de toutes les nations. Dieu le Fils est mort à notre place afin que s'accomplisse pleinement la justice et le pardon divin. Nous avons été rachetés à un grand prix. C'est dire à la fois notre insignifiance et notre importance pour le Seigneur. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a fait toute chose nouvelle. Déjà, il a vaincu la mort et nous offre à tous le salut. Et nous sommes au bénéfice de cette grâce. Et nous sommes rendus justes par Dieu, non par nous-mêmes, ni par nos œuvres ou notre moralité, non. Mais simplement en répondant à son appel, cet appel qui nous libère de nos enfermements et nous met debout et en route. Et en Dieu, tout est accompli. Jésus nous a enseigné comment prier. La prière, c'est quelque chose comme le désir du tout autre. C'est un mouvement de tout notre être vers celui en qui nous croyons. C'est un recueillement intérieur qui rassemble notre vie dispersée et la recentre. La prière, c'est un appel qui espère, une espérance qui attend, une écoute qui s'affine. En quelque sorte, la prière, c'est la sève de la foi. Et la distance infinie entre Dieu et l'homme n'a d'égal que sa grâce envers les pécheurs que nous sommes. Le psaume 103 au verset 19 dit « Seigneur Père, Seigneur Grâce, Seigneur Roi ». Et Dieu nous dit toujours « Où es-tu ? Qu'as-tu fait ?» Et Jésus dit « Veillez ». Et Jésus choisissait des exemples concrets de la vie courante pour instruire ses disciples. Aujourd'hui, un figuier, c'est un arbre comme un autre. dans un verger ou dans un jardin, parfois très envahissant. Et au temps de Jésus, quelques figues ou quelques dattes, une bouillie de céréales ou du pain, un oignon, constituaient un repas. D'où l'importance de veiller sur son figuier. C'est donc veiller à préserver la vie future et agir en quelque sorte en bon père de famille. C'est faire acte de foi et croire en l'avenir. Cet avenir est ouvert à tous. Savants, misérables, bergers aux champs ou les mages du lointain Orient. Et cet avenir est une inconnue sur laquelle nous n'avons aucune prise. Soyons donc attentifs et non captifs des soubresauts de l'histoire. De l'histoire avec un grand H et de notre histoire à nous avec un petit H. Et guettons l'heure du Seigneur. C'est vital. Le Seigneur a dit, veillez, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, disait Jésus. Vous souvenez-vous des paroles du psaume 117 ? Louer, en hébreu, c'est briller, c'est luire, c'est allumer. La louange est lumière. Je suis la lumière du monde, a dit Jésus. La louange nous incline devant ce qui n'est pas nous. Et le monde ne tourne plus à ce moment-là autour de notre nombril. Il détourne notre attention de notre petite personne. Et lorsque nous louons le Seigneur, nous nous souvenons de tous ses bienfaits. Et toujours en hébreu, le sens étymologique de se mettre à genoux, c'est bénir. Et bénir, c'est dire du bien, c'est louer. Mais il est parfois difficile d'être dans la louange lorsque nous sommes accablés de soucis ou de souffrances. Je pense entre autres à tous ces malheureux maintes fois sinistrés qui ont tout perdu, même leur maison. Ces agriculteurs dont le travail a été anéanti par la montée des eaux. Ces malades isolés dans les hôpitaux bondés. Ces soignants épuisés. Ces familles détruites par les attentats ou par les violences gratuites. Et un peu partout, ces guerres. Dans le judaïsme, le kaddish était récité lors de la mort de quelqu'un. Et pourtant, c'est un hymne de louange. Il a été récité dans les camps de la mort, lors de la dernière guerre. Et il a une fonction de protestation, dans le sens de protestare, c'est-à-dire pour témoigner. Parce que Dieu ne saurait se réduire à notre réalité, à la réalité vécue de ceux qui le célèbrent. Et il en est de même pour la démarche liturgique de nos cultes. Ces prières et ces chants ont un caractère objectif extérieur à nos sentiments et ils disent la louange, même quand nous sommes tristes. Ils disent la repentance, même quand nous avons oublié Dieu, le pardon, quand nous sommes enfermés dans la rancune, la foi, même quand la nôtre est en crise. Et ils disent l'intercession, même quand nous nous replions sur nos égoïsmes. Alors essayons d'être imbibés d'évangile afin qu'il résiste en nous au moment de l'épreuve. Et louer et veiller amène à mon sens un troisième verbe qui serait émerveiller. Tout ce que Dieu a fait et fait pour nous, sa merveilleuse création mise à notre disposition, sa bonté, sa patience, sa sollicitude, son pardon, son incarnation. Dieu nous aime tant qu'il nous appelle ses enfants. Alors l'émerveillement, c'est la louange, la gratitude, la prière arrivée à maturité. C'est un regard neuf, un regard bienveillant, vigilant, patient, confiant, un regard qui réenchante la maussaderie du quotidien. Veillons. Soyons attentifs à la lumière du Christ. Alors, soyons dans l'audace et l'adoration, les veilleurs, les guetteurs joyeux de l'aurore qui vient. Déjà sur le chemin de l'avant, et pas encore. C'est vrai, c'est sûr. En hébreu, c'est Amen.